1 Samuel au chapitre 15, lorsque Saül a été rejeté, je ne sais pas si vous vous rappelez, Saül a été rejeté parce qu'il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Il voulait faire à sa façon, et vous savez, Dieu ne bénira pas quand on fait à notre façon. Dieu bénira si on fait à sa façon. Notre modèle, c'est Jésus. Saül a voulu faire à sa façon, il a été rejeté. Sa pseudo-repentance n'a servi à rien parce qu'elle était superficielle. Et bien sûr, Samuel a été peiné de voir le rejet de Saül. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, verset 34, qu'est-ce qu'il est dit ? 1 Samuel, chapitre 15, verset 34. Vraiment, je pensais à ce texte, je ne pensais pas le partager avec vous, mais c'est pour introduire la réunion de ce soir. Samuel partit pour Ramah et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Il y a de quoi pleurer parfois. Est-ce que vous savez qu'il y a de quoi pleurer ? Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour arrêter de pleurer. Et regardez le chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. » Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Oui, il y a un temps pour pleurer. Franchement, c'est clair. Il y a un temps pour pleurer. Mais je crois aussi qu'il y a un temps pour être à l'écoute de Dieu et entendre ce qu'il a préparé. Et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est cela, c'est que oui, il y a des choses malheureuses, oui, c'est l'apostasie, oui, c'est les temps difficiles, oui, on pourrait faire la liste de tout ce qui va mal et de tout ce qui ira de plus simplement, mais on peut faire aussi le parcours inverse, à savoir, mais quelle est la solution de Dieu aujourd'hui ? Et je crois que c'est ce que nous voulons contribuer à travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Pour cela, j'aimerais avec vous lire une prière dans Éphésiens, c'est une prière de l'apôtre Paul, il est en prison, mais il donne une solution. Vous savez mes frères et sœurs, oui il y a de quoi pleurer, mais quand Dieu dit « remplis ta corne d'huile et va », c'est que Dieu a déjà la solution. Samuel n'en savait rien, il pleurait, mais Dieu avait déjà préparé à l'avance la solution, parce que je crois qu'il avait déjà préparé longtemps à l'avance David. Est-ce que vous croyez que Dieu a déjà tout préparé à l'avance ? Oui, et moi je voudrais que nous nous réjouissions, non pas de ce que ça va mal, mais nous nous réjouissions de ce que le Seigneur est assis sur son trône, que tout pouvoir lui a été donné, et qu'il cherche des hommes et des femmes qui vont être fortifiés par, dans l'Esprit du Seigneur, comme c'est écrit dans les Éphésiens au chapitre 3. C'est une prière, l'apôtre Paul est en prison, il n'est pas découragé, il est en prison, et il prie, il demande quelque chose. Regardons-le s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3, verset 12. En lui, donc en Jésus, nous avons par la foi, en lui, tout ça par la foi, que ce soit bien clair, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voudrais que ce soir nous comprenions. Que lorsque nous nous approchons de Dieu avec liberté, avec confiance, avec obéissance, le Saint-Esprit a le pouvoir de fortifier notre esprit. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? De toute façon, il n'y a que cette solution. Dieu a dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Ce qui est important, c'est que nous soyons remplis de cette huile, remplis du Saint-Esprit pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, quoi que ce soit qui s'est passé. Vous savez, nous sommes tous des serviteurs. Est-ce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu ? Est-ce que nous avons tous reçu des talents ? Oui, la parabole des talents nous rappelle que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu et que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, il faut le faire valoir, que le Seigneur nous a fait la grâce de nous placer dans son Église. Je ne parle pas des assemblées de Dieu, des pentecôtistes, je parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu nous a placés dans son œuvre. Vous le savez que vous êtes dans son œuvre. Et donc, que nous devons faire son œuvre, qu'il a préparée à l'avance, mais son œuvre ne pourra se faire que d'une manière spirituelle. Ne nous mettons pas en tête l'idée que Dieu pourra fera son œuvre avec des méthodes charnelles, humaines, politiques, sociales. L'œuvre de Dieu ne peut se faire que d'une manière spirituelle. L'Esprit de Dieu est un esprit vivifiant. Et l'œuvre de Dieu doit être l'écoulement du Saint-Esprit à nous. Relisons cette partie de la prière de Paul. Donc, il prie, il nous demande de prier. Pourquoi ? Afin qu'il vous donne, verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, donc esprit avec E majuscule, dans l'homme intérieur, donc dans votre esprit. Vous savez ce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que nous voulons cet épanchement d'eau vive, cet écoulement, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons, au travers de nos vies, être des sources de bénédiction? Est-ce que c'est important pour vous d'être une source de bénédiction? Eh oui, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Nous disons, voilà, moi, tu m'as placé dans ta maison, tu m'as sauvé, et je veux qu'une de mes joies, ça soit de connaître ta volonté et de m'y conformer. Parce que connaître la volonté de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut dire, je sais ce que Dieu attend de moi, il m'a placé là dans l'église, Dieu peut placer quelqu'un pour quelques personnes. Est-ce que Dieu peut placer une personne dans l'église pour deux ou trois personnes dont il devra s'occuper? Oui, Dieu peut placer une personne pour toutes les personnes, etc. Mais ce qui est important, c'est de dire, je veux connaître la volonté du Seigneur. Paul était en prison, il connaissait la volonté de Dieu. Il savait ce à quoi Dieu l'avait appelé. La preuve, c'est qu'il a écrit une lettre qui, 2000 ans après, continue à bénir le peuple de Dieu sur la surface entière de la terre. Notre vie intérieure, voyez, fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Notre esprit doit être ouvert à la vie de Dieu. Et ce qui fait barrage souvent, c'est que notre vie est trop ouverte aux choses de la terre. Il y a trop de choses du monde qui viennent, qui nous envahissent, qui nous nourrissent. Rappelez-vous quand Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Il n'a pas écouté. Pourtant, Dieu avait pris le temps, j'allais dire, de lui parler. Oui ou non? Est-ce que ce n'était pas quand même une preuve de l'amour de Dieu, vu ce qu'il avait fait? Il y en a qui l'auraient déjà rejeté. Dieu a pris le temps d'aller vers lui et lui dit, écoute, Caïn, c'est pas bon. Le péché se coûte à ta porte. Pourquoi t'irrites-tu? Il était irrité contre son frère, il était jaloux, parce que vous connaissez l'histoire des sacrifices. Et vous savez comment ça, il n'a pas écouté. Et nous devons faire attention aux choses de la terre. Nous ne nous rendons pas compte combien les choses de la terre peuvent nous influencer et nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Alors après, si on n'entend pas la voix de Dieu, on va essayer de faire l'œuvre de Dieu avec des choses charnelles. Mais je vous assure que je vous avais dit, il y a 16 ans, c'est vieux, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que la musique détruirait l'Église. Beaucoup de gens ont ri, il y a des gens qui sont même venus me voir parce qu'ils l'ont entendu par internet, par des cassettes, ils sont venus essayer de me remettre d'équerre pour essayer de m'expliquer que je perdais la tête. Mais moi je peux vous dire, 16 ans sont passés et je peux vous dire que je ne me suis pas trompé. La musique est en train de détruire l'Église. Alors peut-être que certains, vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mais moi je peux vous dire que la musique, il faut qu'elle soit spirituelle. Il faut que tout soit spirituel. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens spirituels. La seule méthode, elle est spirituelle. Et c'est vrai que le spirituel, ça marche avec l'effort. Est-ce qu'il est demandé dans la Bible de faire des efforts? Bien sûr que oui. Mais la première chose à savoir, quelle est ma place dans le corps de Christ? Quel est mon travail? Je dois savoir ce à quoi Dieu m'appelle. Il y a des gens qui courent partout, 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 et en fin de compte, quand ils regardent à la fin, ils n'ont rien fait. Oui, nous voulons porter du fruit. Vous voulez porter du fruit? Eh bien, il faut être fortifié dans votre esprit. On le relit ce verset, parce que quand même, c'est important. On lit le verset 15, 14, 15 et 16. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Voyez l'attitude de Paul, il se retrouvait souvent à genoux. En tous les cas, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, peut-être parce que vous avez un peu d'arthrose, est-ce que ça peut arriver en vieillissant que les genoux ils soient abîmés? Mais on peut spirituellement être à genoux devant Dieu. Là, on peut être assis, mais on peut être humble devant Dieu, être comme à genoux devant le Seigneur. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Dieu a des choses à vous donner. Vous le croyez que Dieu a des choses à vous donner? Est-ce que vous savez ce soir que Dieu veut vous rappeler qu'il a des choses à vous donner? Et qu'est-ce qu'il veut donner? Selon la richesse de sa gloire. Parce que si les caisses de la sécu sont vides, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, les caisses du ciel, moi je pense que les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Vous le croyez? Afin que Dieu vous donne, par son esprit, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Voilà, mes frères, ce que nous voulons. Nous voulons du fruit, nous voulons porter du fruit, avoir de la puissance, et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, vous savez, le Saint-Esprit, il ne va pas n'importe où. Vous vous rappelez comment le Saint-Esprit est descendu sur Jésus? Comment il est, sous quelle forme il est descendu? Sous une colombe. Vous savez que la colombe, on a vite fait... Vous avez vu un oiseau sur la fenêtre, comme on a vite fait de le faire partir? C'est, qu'on le veuille ou non, l'image de la colombe est un animal effarouchable. On peut vite lui faire peur. Et je pense que c'est quand même pas pour rien que Dieu a comparé le Saint-Esprit, a voulu comparer le Saint-Esprit à une colombe pour nous montrer qu'il est sensible et qu'il vient, il ne vient pas sur la chair. Et j'aimerais lire avec vous Romains chapitre 8, juste avant, donc, dans Romains. Je pense que c'est important. L'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait par le Saint-Esprit. Et si nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu se faire comme nous aimerions qu'elle se fasse, il faut que nous nous mettions tous d'accord et dire « Oui, l'œuvre de Dieu se fera avec des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit ne vient pas sur la chair. Regardez Romains 8, versets 5 à 8. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, alors c'est plus grave que ce qu'on pense, c'est quoi dans votre Bible? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc Dieu ne peut agir dans son Église que par des chrétiens qui sont renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit. Appelez-le comme vous le voulez, parce qu'il y a des gens qui font des commentaires sur « Oui, mais être rempli du Saint-Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue, etc. » Appelez-le comme vous le voulez. Mais une chose est sûre, Dieu fera son œuvre avec des hommes et des femmes renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, obéissant à Dieu. Parce que si on devait le résumer à un mot, c'est à l'obéissance. Car le Saint-Esprit est donné à qui? À ceux qui obéissent. Pas ceux qui vont à l'église, pas ceux qui enseignent très très bien sur la vie de l'Esprit. Non, le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Et vous savez que la Pentecôte a pu se manifester parce que le calvaire s'est manifesté. Est-ce qu'il aurait pu avoir la Pentecôte si Jésus n'était pas mort sur le bois de la croix? Eh bien sûr que non. Donc si nous voulons cette Pentecôte, si nous voulons cette vie de l'Esprit, si nous voulons ce baptême d'en haut, cette vie, cette effusion, ces fleuves d'eau vive, nous devons comprendre que nous aussi, il nous faut passer par la mort à nous-mêmes. Et la sainteté, l'onction, ça vient que sur des vies qui sont passées par le calvaire. Moi, j'ai été étonné de voir que l'huile d'onction dans le Nouveau Testament, elle n'était pas sur la chair. Elle était sur les vêtements. Il y a besoin d'un revêtement. Est-ce que vous voulez un revêtement de puissance? Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui dit dans ce lieu, moi, je veux payer le prix. Est-ce qu'on veut payer le prix pour la solution? Et l'onction n'est pas répandu sur la chair. Si ça vous intéresse, vous lirez dans Exode chapitre 30. Mais on pourrait le lire. Après tout, c'est important. Ce sont des choses très, très importantes. Lisez avec moi dans Exode. Moi, c'est un texte qui m'a beaucoup frappé et qui m'a montré ma misère souvent, oui. Dans Exode chapitre 30, l'huile sainte qu'on appelait, l'huile sainte, n'était pas répandue sur la chair. Exode 30. Et ça veut tout dire. Bien sûr, quand vous lisez ça pour la première fois, vous dites « j'y comprends rien ». C'est vrai que c'est compliqué, non? Est-ce que c'est compliqué, certains textes? Moi, il y a des textes qui, au début, je ne comprenais rien. Mais je ne comprenais rien du tout. Regardez, Exode 30, verset... on va lire... Alors, 31. Ouais. « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. » Donc, ça vous intéresse, non? L'huile de l'onction sainte. Parmi vos descendants, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Vous avez vu? Donc, ce n'est pas sur la chair. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Vous voyez comme on essaie d'imiter l'onction. Bon, ça, c'est un autre sujet. On va pas partir dans tous les sens, mais une chose est sûre, le Saint-Esprit est descendu après la mort et la résurrection de Jésus. Il ne pouvait pas venir avant. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix pour que l'onction du Saint-Esprit vienne sur l'Église. Et c'est pour ça que la dernière strophe là, que nous a fait chanter Michael, c'est vrai que c'est une strophe... Vous pouvez la remettre, s'il vous plaît ? C'est quand même, je ne sais pas, bon, c'est des chants bien, le chant que vous nous avez appris, c'est un chant très très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort, devenir conforme à toi dans la mort. Peut-être que quelqu'un dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je dois mourir à moi-même, que ma vie ne m'appartient plus. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui décide. Conforme à sa mort. Nous, on cherche la vie de Christ. Est-ce que c'est important la vie de Christ ? C'est important la vie de résurrection. Nous, c'est clair que tout ce qui concerne la vie, la résurrection, ça nous préoccupe. On a envie de produire de la vie. Mais la conformité à sa vie passe d'abord par la conformité à sa mort. Merci Delphine. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Lisons-le, ça je le sais par cœur, c'est dans Romains au chapitre 6. Regardez, on a lu, mais c'est important, parce que si nous voulons vivre la vie de Christ, être remplis du Saint-Esprit, il faut que ça passe par la conformité à sa mort. Romains chapitre 6, alors c'est le verset 4. J'ai parlé dessus, plusieurs fois là-dessus. Lorsqu'il est parlé du baptême, les gens souvent le baptême c'est juste un engagement, c'est juste le salut. Mais regardez, qu'est-ce qu'il est dit au verset 5 ? Verset 5, on peut lire verset 4 même. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc voyez mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut ? Ce que Dieu veut, c'est que nous mourions à nous-mêmes. La conformité à la mort va amener la conformité à la vie. Nous, souvent, on parle que du côté de la vie, parce que nous sommes intéressés par la vie, nous sommes intéressés par la résurrection, nous sommes intéressés par la puissance, nous sommes intéressés par le fruit. Mais le fruit, regardez, quand on parle du blé, clac, on est intéressé, un grain en donne 30, un grain en donne 60, mais pour que ce grain en donne 30 et ce grain en donne 60, qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Il y a d'abord. Il faut que le grain de blé tombé en terre ne meure, il ne porte pas de fruits. Nous, on peut faire tout un truc sur la vie, la mort, ce blé qui est ballotté par le vent, c'est magnifique. Mais avant, il faut qu'il soit enterré et là, dans les ténèbres, parce qu'un grain de blé dans la terre, c'est pas, ça va pas être terrible. Non, dans l'humidité, la terre, il y a quand même une conformité à sa mort. Alors nous, on a l'impression qu'on va tout perdre. On se dit, oh, mais si je meurs à moi-même, si j'abandonne toute ma vie. Et le diable, alors je peux vous dire que lui, le diable, il va mettre plusieurs couches pour essayer de vous décourager et vous faire croire que vous allez tout perdre. Mais c'est pas vrai. Quand on donne sa vie au Seigneur, on passe dans une autre dimension. C'est cette vie de l'esprit. Et c'est ce que l'Église a absolument besoin. La conformité à la vie est précédée par la conformité à la mort. Vous voyez, on a chanté un cantique, je ne sais pas, quand il a dit la troisième strophe, elle est difficile. Oui, elle est difficile. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ne plus vivre selon la chair. L'onction ne viendra pas sur la chair. C'est pour ça que je vous disais que cette musique, alors il y a la musique, bien sûr, la musique qu'il y avait ce soir, c'est bien. C'est très bien. Moi, je me suis fait du bien, je vous le dis. Mais je peux vous dire qu'il y a une musique charnelle. Il y a une musique mondaine, et je vais aller plus loin, parce que c'est vrai, il y a une musique diabolique. Alors vous allez me dire, monsieur Gault, tu vieillis, tu es vieux maintenant, tu vois. Eh bien écoutez-moi, ce n'est pas une question d'être vieux. Jérémy me le dit souvent, monsieur Gault, vous devenez vieux, voilà, vous vieillissez. Et voilà, il me le dit. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas une question d'être vieux ou d'être jeune. Ce n'est pas une question d'être moderne ou pas. C'est une question de spiritualité. C'est une question d'être conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu, alors elle est vieille. Elle est vieille, la Bible. Un peu plus vieille que moi, la Bible. La parole de Dieu. Alors pourquoi lire dans ce vieux bouquin ? Puisque c'est vieux tout ce qui est écrit. Est-ce que vous croyez qu'on a raison de lire dans la parole de Dieu? Ce n'est pas un vieux livre, comme des gens le disent. Oui, c'est un vieux livre. Il faut des choses modernes. Ce n'est pas vrai. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus. Le modèle, c'est l'Église primitive. Et si la Bible parle souvent de la conformité à sa mort, et si on l'a chanté encore ce soir, c'est bien de prendre des cantiques profonds. Et je peux vous dire qu'il y a des églises, on ne veut plus de ces cantiques-là, parce que ça fait trop réfléchir. Mais mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur l'Église primitive parce qu'il y a eu la mort de Jésus. Et Jésus a été rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, une fois qu'il a obéi en prenant le baptême. Et ce n'est pas parce qu'on prend le baptême qu'on obéit au Seigneur. Souvent, les gens obéissent, prennent le baptême, ils entrent dans le royaume de Dieu. Mais ça ne fait pas pour cela des enfants obéissants. Et si nous voulons une église spirituelle, est-ce c'est ce que nous voulons, oui ou non? Ce qu'on veut, c'est une réunion de chrétiens spirituels. Si les, imaginons, on entre dans il y a 100 chrétiens, 100 chrétiens dans une église, les 100 chrétiens sont spirituels. Est-ce que la réunion va être lourde? C'est pas possible. Est-ce que ça peut arriver qu'on sente de la lourdeur? Oui, parce qu'on va pas bien. Ou parce qu'on perçoit, si on a de la sensibilité, que les gens vont pas bien. Ça peut arriver d'entrer dans un endroit et de sentir beaucoup de lourdeur. Mais moi, on pourrait nous mettre au défi. Imaginons que tous les chrétiens d'une église soient obéissants au Seigneur Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, il est impossible qu'il y ait de la lourdeur. Au contraire, il va y avoir cette joie et cette grâce, malgré les fardeaux, malgré les soucis, malgré les épreuves, il va y avoir cette vie de l'Esprit qui va se manifester. C'est pour cela que l'œuvre de Dieu ne peut se faire qu'avec des gens spirituels. Et si nous voulons une œuvre puissante, il faut que nous d'abord, nous soyons fortifiés, puissamment fortifiés dans notre esprit par le Saint-Esprit. Il y a une préparation, elle est sérieuse la préparation. Vous vous rappelez dans Ésaïe 40, quand Dieu dit « mais la gloire de Dieu sera manifestée » au verset 3. Le verset 1er commence « préparer au désert le chemin du Seigneur ». Alors on part de bas, là. On part de très très bas, puisqu'il dit « préparer au désert ». Mais ça veut dire que quelle que soit la configuration du départ, parce que le désert, ce n'est pas quand même l'image du top, c'est vraiment l'image de que ça ne va pas. Eh bien Dieu dit « préparer au désert le chemin de l'Éternel, aplanissé, etc. » Vous savez ce qu'il dit. « Alors la gloire de Dieu sera révélée ». Il y a une préparation. Et vous et moi, nous devons avoir ce souci de dire « ben Seigneur, ce soir, tu me rappelles l'importance de me préparer ». Et je vous le dis, parce que c'est pour quelqu'un, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Peut-être que vous êtes entouré de chrétiens charnels. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien soit entouré de chrétiens charnels? Il ne faut pas que ça vous décourage. Que t'importent les autres? Oui, autour de moi, il y a des chrétiens, ils ne vont pas bien. On ne peut même pas prier ensemble. Tatati, tatata. Eh bien, mes frères et sœurs, vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit dans votre être intérieur et préparez le chemin du Seigneur, comme Jean-Baptiste qui a été appelé le plus grand parmi les hommes, pourtant il a fait aucun miracle. Voyez, nous, pour nous, voyez, on n'a pas la même échelle de valeur. Hein. Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a dit que parmi les hommes, c'était le plus grand. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé le chemin du Seigneur. L'église la plus grande, entre guillemets, ce n'est pas celle qui a du nombre ou cela, c'est une église qui prépare le chemin du Seigneur. C'est une église qui se prépare alors individuellement, collectivement, dans ses réunions comme ce soir, dans les réunions de prière, chez soi, à la maison. On prépare le chemin du Seigneur. On veut que la gloire de Dieu soit manifestée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Comment commence le livre des Actes? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui se sont préparés au baptême du Saint-Esprit. On peut le résumer comme ça, qu'on le veuille ou non. Ils ont dit, voilà, attendez dans la chambre haute, il va se passer quelque chose, vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et il y en a environ 120 qui ont pris ces choses au sérieux et qui se sont préparés à être remplis du Saint-Esprit et à être dirigés par le Saint-Esprit. Parce que c'est bien d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est bien le lendemain de continuer à obéir. Et ce qui est né de l'Esprit est vraiment important. C'est pour ça que nous devons prendre au sérieux ces choses. Et quand on chante des cantiques comme celui qu'on a appris, ça doit nous faire réfléchir. C'est pour ça que je me suis permis de revenir sur ce cantique pour que l'on réalise ce que l'on chante. C'est pas des belles. C'est vrai que la musique est jolie de ce cantique, mais les paroles sont d'une profondeur totale. Et si nous ne veillons pas à ces choses, eh bien nous ferons le travail avec avec nos forces personnelles, avec ce qu'on appelle notre âme, avec nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos désirs, etc. Non, nous devons faire l'œuvre de Dieu avec l'action du Saint-Esprit. Nous devons vivre dans la vérité. Il ne faut pas comprendre les Écritures. Il faut vivre par la foi. Est-ce que c'est bien la compréhension des Écritures? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de comprendre? C'est-à-dire, voilà, je comprends une vérité, voilà, c'est-à-dire que mon intelligence saisit cette vérité, je sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait l'œuvre de Dieu. La foi, c'est autre chose. La foi, c'est dire, oui, je le sais, c'est dans ma tête, mais je veux le vivre. Je veux que ça provoque une action. Être les fleuves d'eau vive, je ne veux pas juste avoir compris le verset Jean 7, 37. Non, je veux être rempli du Saint-Esprit, je ne veux pas le comprendre avec ma tête, je veux le vivre dans ma vie de tous les jours, je veux être rempli du Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre la compréhension et la foi. Merci Seigneur pour la compréhension. C'est bien de comprendre les choses dans la Bible. C'est super, non? Quand on dit « Ah, ça je l'ai compris, j'ai compris ci, j'ai compris ça. » Mais ça ne suffit pas. Il faut une véritable foi. Et Dieu accomplira son œuvre, continuera à accomplir son œuvre à partir de vases vides. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose que Dieu veut faire, c'est d'abord nous vider de nous-mêmes. Dieu fera son œuvre avec des vases qui se vident. Dieu veut déverser son esprit en nous. On l'a lu dans Éphésiens, que la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit fortifie notre être intérieur. Oui, Seigneur, fais de moi un vase vide. Je veux me présenter devant toi. Demain matin, je vais faire mon culte. Avant d'aller au travail, je vais prendre le temps que j'ai à cœur de prendre. Pour vous, ça sera peut-être un quart d'heure. Pour l'autre, ça sera 20 minutes. Pour l'autre, ça sera plus. J'en sais rien. C'est pas à moi de vous dire, prenez tel temps. Mais je suis convaincu que je dois me présenter devant le Seigneur, me séparer de tout ce qui est inutile, parce que la Bible dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est charnel. Eh bien, je dois m'en séparer. Soit ça fait partie de la vieille nature, eh bien, je dois m'en débarrasser. Le travail, il est spirituel, dont il ne peut être fait que par des gens spirituels qui sont en communion avec le Seigneur. Vous vous rappelez quand Marthe était presque sûre de son coup en allant voir le Seigneur et en lui faisant presque un reproche, Seigneur, cela ne te fait-il rien de leur dire, mais tu aurais pu te rendre compte avant, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Paf, elle savait parler, elle fait un reproche au Seigneur et elle critique sa sœur. Est-ce qu'elle était, quand on parle comme ça, c'est qu'on est sûr de soi. Mais Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses de servir Dieu. Le Seigneur ne méprise pas ce qui est fait pour lui. Au contraire, il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Et si vous voulez faire, je me mets avec vous, si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, il y a une chose, c'est de s'asseoir dans sa présence et de recevoir quelque chose qui nous permettra de faire l'œuvre de Dieu. Car la vie de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est le débordement, puisque Jésus parle de fleuve d'eau vive, c'est le débordement de ce que l'on reçoit. Mes frères et sœurs, ne nous faisons pas piéger par l'activisme, par les activités, laissons-nous attirer dans la présence de Dieu, recevons ces fleuves d'eau vive. J'ai souvent fait allusion à cette question que les Juifs ont posée à Jésus quand ils ont dit à Jésus, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Notre service pour Dieu ne doit pas être un poids. Moi, je vous assure, ce que je vais vous dire, bon, vous en doutez, combien de fois, moi, servir Dieu, ça a été un fardeau, un poids. Est-ce que, alors, c'est un débat, ça, qu'on peut avoir. Est-ce que servir Dieu peut être lourd, peut être un fardeau? C'est un débat, comme on l'aura avec les pasteurs, les anciens, les stagiaires. Voilà. Mais est-ce que, franchement, il peut y avoir de la fatigue? Est-ce qu'on peut être fatigué? Oui, mais il peut y avoir de la fatigue, et puis ça peut devenir, un fardeau. Est-ce que servir Dieu, ça doit être un fardeau ou ça doit être une joie? Je pense quand même que servir Dieu, ça doit être un plaisir. Mais si servir Dieu n'est qu'un fardeau, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et que je dois mettre ça au pied du Seigneur, dire, Seigneur, non, moi je veux te servir, je veux que ce soit un plaisir de te servir, même s'il y a la fatigue du jour, bien sûr qu'il y a des moments où il y a un peu de fatigue, mais une chose est certaine, je veux recevoir. Mes frères et sœurs, vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que vraiment vous voulez être utile? Eh bien, recevez. Pour recevoir, tenons-nous à ses pieds. Soyons dans cette source. La Bible dit, c'est dans le psaume 68 que je vous le lis. Dans la version Darby, il est dit, « Dans les congrégations, bénissez Dieu et le Seigneur, vous qui êtes la source d'Israël. » Vous qui êtes la source d'Israël. Voilà, ça c'est une bonne question. Notre vie a-t-elle une source? Est-ce que je suis branché sur une source? Ou est-ce que je suis comme un citron qui est tout le temps pressé? Vous avez vu les citrons pressés? Au bout d'un moment, vous pouvez appuyer, vous avez déjà essayé, juste hein, le pauvre, quand il ne reste plus qu'une goutte. Hein. Mais un chrétien, ce n'est pas un citron pressé. Un chrétien, c'est une source. Quand Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et l'œuvre de Dieu doit être une source d'eau. L'œuvre de Dieu dans nos vies doit être une source d'eau. Et si vous n'arrivez plus à donner, eh bien arrêtez-vous et mettez-vous à l'écoute du Seigneur comme on l'a chanté tout à l'heure. Et je veux terminer avec ce texte dans Genèse au chapitre 26. Vous avez certainement lu ce texte où on voit que, vous savez, Abraham avait fait des puits. Et quand Isaac revient à l'endroit, qu'est-ce qui se passe? Tous ces puits ont été bouchés. Ça fait peine quand même. Hein. Genèse 26. Moi, c'est un texte, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, écoute, il doit y avoir un gros message là-dedans. J'avais quelques jours de conversion, et il y a un grand message. Dans Genèse 26, on va lire au verset 15, vous pourriez lire le contexte, mais voilà avec quoi je veux conclure. Regardez bien, Genèse 26, verset 15. « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Vous avez vu? Tous les puits, pas deux, ni trois, mais tous les puits qu'avait creusé Abraham, eh bien, ils ont été comblés de poussière. Vous savez, la poussière, il en faut de la poussière pour combler un puits. Une pelle de poussière, est-ce que ça va combler un puits? Bien sûr que non. Mais vous savez, des milliers et des milliers de pelles, et vous savez, des petites choses, c'est comme il est dit que la mouche infecte l'huile du parfum. Une mouche, tu te dis, une mouche, pour infecter de l'huile, n'importe quoi. Eh bien oui, il en faut peu. Une mouche, paf, qui tombe dans l'huile, reste collée, et bien rien que cette infection, et bien ça va détruire tout le parfum. Et là c'est pareil, un peu de poussière, et bien ça finit par boucher tous les puits. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Vous voyez, ça ne change pas beaucoup. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Etc, etc. Tous les puits, il les a débouchés et il a donné le même nom. Vous savez, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, ne cherchons pas des choses nouvelles. Il y a des choses dans la Bible qui portent des noms bien précis, comme la communion fraternelle. La communion fraternelle, est-ce que ce n'est pas un merveilleux puits de grâce dans l'Église? Franchement, la communion fraternelle, voilà, ce n'est pas la peine de chercher une autre signification. La fraction du pain, la Sainte-Cène, est-ce que c'est quelque chose qui doit être maintenu dans les Églises? Je peux vous dire que dans de plus en plus d'églises, on cherche autre chose. La Sainte Cène doit être conservée. Ce n'est pas une institution des assemblées de Dieu. C'est une institution du Seigneur Jésus lui-même. C'est un puits merveilleux où nous pouvons nous éprouver nous-mêmes, etc., etc. L'enseignement des apôtres, la prière. Il y a besoin de trouver des nouveaux mots? Mais non, il n'y a pas besoin de trouver de nouveaux mots. Les choses, elles sont dans la Bible. Eh bien, débouchons ces choses. Si la communion fraternelle s'est enfarinée, s'est empoussiérée, eh bien, débouchons ces choses. Si je suis perdu dans l'enseignement, eh bien, que je retrouve la joie de l'enseignement, que je retrouve la joie de chanter des cantiques. Est-ce que c'est important de chanter des cantiques? Eh oui, soyez remplis du Saint-Esprit. La première des choses qui est dite, entretenez-vous par des cantiques spirituelle. Ça, c'est clair que là, il faut que des cantiques soient spirituels, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, on s'en fiche. Mais qu'au moins, ils soient spirituels et que nous ayons cette grâce de déboucher ces puits. Ça a dû être du boulot, déboucher les puits. Est-ce que ça doit être un travail? Il y a des puits de 10 mètres, il y a des puits de 20 mètres, il y a des puits de 30 mètres. Il faut du courage pour aller enlever la poussière à cette profondeur. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les agneaux et les bœufs, ils étaient contents après? Mais oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'amener de nouveau la fraîcheur sur les autres et de dire « Oui, je veux que ma vie soit une source de bénédiction. Je veux faire l'œuvre de Dieu. » Oui, il y a de quoi pleurer. Oui, il y a de quoi pleurer. Si Samuel a pleuré, pourtant Samuel, c'était quand même, excusez-moi l'expression, mais c'était quand même une drôle de pointure dans le royaume. Eh bien, voyez, on peut tous pleurer. On a tous des moments où on est blessé, épuisé de ce qui s'est passé dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dira toujours à un moment donné « Écoute, arrête de pleurer. » Il y a une solution et tu vas la découvrir. Remplis ta corne d'huile et va. Mes frères et sœurs, si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, si ensemble nous voulons voir l'huile de l'Esprit, la vie de l'Esprit se manifester, remplissons nos cornes d'huile, remplissons nos vies de sa sainteté, remplissons nos vies de son amour. Les choses de Dieu, ne les changeons pas de grâce, ne changeons pas les choses de Dieu. C'est pas la peine d'essayer de changer pour plaire aux gens. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'entends de ces trucs. Il y a même des églises, il n'y a même plus écrit église. On écrit centre chrétien dessus pour pas faire trop église. Oui, n'importe quoi. Mais moi, ça me fait pitié, vraiment. Moi, je crois une chose, que la Bible, elle est claire. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à retrancher. Laissons le Saint-Esprit nous envahir, que nous soyons des fleuves d'eau vive. Et laissez-moi vous dire que nous pourrons rafraîchir les autres. Ce n'est pas le diable qui va nous empêcher. Si nous voulons, nous serons des sources de bénédiction. Alors s'il y a quelqu'un ici qui veut être une source de bénédiction, vous savez, moi je suis sûr que dans une église, il y aurait 10 000 personnes. Il n'y en a qu'un qui voudrait être une source de bénédiction. Eh bien, Dieu le bénira. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Apocalypse. Aux sept églises, il y en a six qui vont pas bien, il y en a une qui marche bien. Aux sept églises, le Seigneur dit à celui qui vaincra. Donc, partout il peut y avoir des vainqueurs. Dans n'importe quelle église de la terre, dans n'importe quel cas de figure, il peut y avoir des hommes et des femmes qui se disent, eh bien, moi ce que j'ai entendu ce soir, je vais le vivre, ça c'est pas bon, je m'en débarrasse, mon puits il est envahi de poussière, Dieu va vous aider. Puisqu'il dit « Préparez au désert ». Même si c'est mal, le plus mal possible, Dieu a le pouvoir de nous aider et de nous montrer sa gloire. Alors on va terminer en priant et on va lui demander qu'on ait cette grâce, cette joie. Dieu a une solution, mes frères et sœurs. Il a toutes les solutions pour la ville de Toulouse, toutes. Alors qu'il trouve parmi nous des hommes et des femmes qui vont remplir leur vie de cette huile sainte et être des sources de bénédiction. Vous le voulez bien ? Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous savons que tu pourvois, que tu as tout dans ta main. Tu l'as dit par le biais de l'ange Gabriel à Marie, qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Nous le croyons, Seigneur, que tu as le pouvoir. Comment tu as incliné le cœur de ce roi pour que Marie puisse aller à Bethléem, Seigneur, pour naître, mon Dieu, à Nazareth pour naître, mon Dieu, comment tu es grand. Comment tu inclines le cœur des rois. Comment tu es tout puissant pour que chacune de tes promesses s'accomplisse. Et tu as dit que dans les derniers jours, tu remplirais, tu baptiserais les hommes du Saint-Esprit. Alors nous à Toulouse, ici, dans cette église, nous voulons faire partie de ces hommes qui vont voir le mal se changer en bien, voir les déserts se transformer en fleuve d'eau vive. Oui, Seigneur, nous le croyons et nous le confessons par la foi que tu es grand, que tu es puissant, comme l'a rappelé, oui, Jérémie tout à l'heure, que tu es capable de changer une vallée d'ossements desséchés à une armée nombreuse et puissante. Alors, s'il te plaît, Seigneur, ce soir, nous t'avions demandé de nous parler. Alors, Seigneur, aide-nous à être fortifiés par ton esprit, dans notre esprit. Oh, que nous ayons cette grâce de nous tenir à tes pieds, dans ta présence, de voir le Saint-Esprit envahir l'Église. Baptise-nous de ta présence. Donne-nous la joie d'obéir à ta parole, puisque tu dis que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Tu vois les jeunes, peut-être, qui sont attirés par toutes ces technologies modernes. Seigneur, délivre ceux qui ont besoin d'une victoire. Seigneur, qui se font piéger par Internet. Oui, tu es un Dieu de délivrance. Tu l'as dit que si un homme était affranchi, il était entièrement libre. Alors ce soir, Seigneur, délivre par ta puissance ceux qui ont besoin d'une victoire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour la délivrance que tu accordes à tous tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.